Soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, de la douceur encore et toujours. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour
nous,
à tous.
Nous commençons avec vous et Météo France. Sébastien, ces températures qui ne baissent pas, c'est vraiment le fait marquant de cette fin février. Quelle tendance dans les heures et jours à venir?
Oui, c'est vrai qu'on bat des records depuis vendredi et cet après-midi il fera encore 15 à 22 degrés en général, mais jusqu'à 24 voire 25 degrés au pied des Pyrénées. On va garder cette tendance douce et très ensoleillée jusqu'à mercredi avant le retour de nuages et d'averses à partir de jeudi par la façade ouest. Et puis à noter quand même que la journée de mercredi sera sans doute la plus douce.
Merci Sébastien. Et curieux mois de février, la pollution aux particules fines accompagne ce beau temps. Reportage à Marseille. Et le vent en Corse, où le taux d'humidité est inférieur à ce qu'il est en été. Incendies depuis ce week-end, ils sont maîtrisés. La préfète met en cause le changement climatique qui se manifeste aussi dans le parc de la Vanoise. Nous entendrons le botaniste du parc. La végétation est en train de changer. Avant cela, nous irons à Grande-Synthe dans le Nord. Nouvelle initiative du maire, compléter le revenu des habitants qui sont sous le seuil de pauvreté. Le coût pour la commune est de 2 millions, financé grâce aux économies d'énergie. Le gouvernement est-il impuissant, comme beaucoup d'autres, à enrayer les fermetures d'usines? Après Ascoval et Ford Blanquefort, le sort des fonderies du Poitou se joue aussi ce week-end. Dans cette édition encore, cyberattaque majeure depuis ce week-end. Nous en parlerons avec l'invité du journal, Jérôme Billois. La loi alimentation permet-elle aux agriculteurs d'être mieux payés? Reportage au Salon de l'agriculture. Cuba inscrit dans sa constitution la nécessité de l'ouverture économique et du marché, mais aussi le caractère irrévocable du socialisme. Référendum hier.
Ici, nous ne pouvons pas faire la propagande du non. On fait la propagande du oui. Il le faut. Point. C'est la continuité de la révolution, de tout ce que nous a légué Fidel.
Reportage complet tout à l'heure dans l'actualité internationale. Encore la gêne de l'Allemagne à propos de ces quelques 2000 personnes dans le monde. 54 en France qui touchent toujours des pensions pour collaboration avec les nazis. Nous dresserons le bilan de la nuit aux Oscars. Meilleur film Green Book. L'histoire de ce pianiste noir dans le sud raciste des États-Unis. Bonjour Eva Bettan.
Bonjour.
Que retient-on de cette cérémonie?
Des Oscars pour Spike Lee, Regina King, Mahershala Ali, le blockbuster Black Panther de Ryan Coogler. Différentes générations d'artistes noirs ont été primées.
Vous nous détaillerez cela. Rendez-vous tout à l'heure. Nous entendrons également un chasseur de météorites. Vente aux enchères, tout ce qu'il y a de plus de sérieuse. Jeudi, en France, dans le Loir-et-Cher précisément, le 13h. Vous avez le programme, c'est parti. Lutte contre la pauvreté, réforme fiscale, réforme institutionnelle, c'est le temps de toutes les idées et toutes les initiatives en France à l'heure du grand débat. Au gouvernement, les propositions d'innovation fiscale virent parfois à la cacophonie. Confère ce week-end Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, qui plaide pour que tout le monde participe un tant soit peu à l'impôt sur le revenu, avant de recevoir un niet de Matignon. Des initiatives aussi au plan local. L'appel au secours des Gilets jaunes doit être entendu, doit nous inciter à réfléchir. C'est ce que dit le maire écologiste de Grande-Synthe, Damien Carême. Il propose de piocher dans le budget de sa commune du Nord et compléter les revenus de ceux qui sont sous le seuil de pauvreté. Application dès le mois de mars. Mathieu Darrier.
Le dispositif a déjà existé dans les années 80 à Grande-Synthe. Aujourd'hui, Damien Carême le relance en partant du constat que plus de 17% de sa population vit en dessous de 850 euros par mois, qui est considéré comme le minimum vital. Cela va coûter plus de 2 millions d'euros par an, mais c'est finançable, assure l'élu.
L'argent provient des économies, notamment des économies d'énergie, et donc c'est en fait la transition sociale et écologique. Et on peut montrer que, par exemple, sur l'éclairage public cette année, c'est 476 000 euros. L'année prochaine, avec le réseau de chauffage urbain, c'est 250 000 euros. Là, ça fait 700 000 euros. D'économie. On a déjà l'argent pour abonder le CCAS aujourd'hui pour son intervention sociale. Donc il nous reste quelques centaines de milliers d'euros à mettre pour compenser ce que va coûter le minimum social garanti sur la ville. Et puis c'est aussi une forme de redistribution des richesses, puisque c'est des richesses de la taxe professionnelle que touche la ville, qui seront distribuées vers les personnes les plus en difficulté. Et ça concerne tous ceux qui sont en dessous de ce seuil de pauvreté, c'est-à-dire les gens qui sont déjà au minima sociaux aujourd'hui, mais aussi les travailleurs pauvres. Quelqu'un qui travaille avec un SMIC, quand il y a 4 personnes avec les aides sociales, il n'est pas au-dessus du seuil de pauvreté. Ça permettra aussi de l'amener au-dessus du seuil de pauvreté.
En fonction des situations de chacun, ce minimum social pourra représenter de 100 à 400 euros de complément de revenus par mois. 1500 personnes seraient concernées.
Mathieu Darrier, France Bleu Nord, reportage. Et Damien Carême avait déjà fait parler de lui il y a quelques temps avec une plainte en justice contre l'État pour inaction climatique. À ce propos, curieux mois de février. Vous venez d'entendre Sébastien Léas dans les titres. Ce n'est pas de douceur mais carrément de chaleur que l'on parlera cet après-midi dans certaines villes du sud-ouest. Le seuil de chaleur est à 25 degrés. Eh bien, on devrait être à 24 cet après-midi à Bagnères-de-Bigorre par exemple. Mais comme désormais, à chaque épisode de Beau Temps Durable, la pollution aux particules fines est de la partie. L'épisode est terminé en Vallée de l'Arve, mais il se prolonge dans les grandes agglomérations parisiennes et marseillaises. En Ile-de-France, chauffage au bois interdit, vitesse limite réduite de 20 km/h. Et à Marseille, Greenpeace accuse la mairie de ne pas en faire assez pour lutter contre cette pollution. Reportage France Inter, Isabelle Dor.
Marseille suffoque, de l'air, on veut respirer. Ces mots, on peut les lire sur les murs de Marseille. Des militants de Greenpeace ont tagué plus de 200 graphes pour dénoncer la mauvaise qualité de l'air ici. Et effectivement, aujourd'hui encore, la préfecture a déclenché une procédure de recommandation à cause d'une nouvelle invasion de particules fines. Mélanie Salvanisa, de Atmosud, l'organisme de mesure de la pollution.
On va dépasser ce seuil qui est fixé à 50 microgrammes de particules fines dans un mètre cube d'air. C'est beaucoup. Les particules fines, en fait, rentrent dans le système respiratoire et plus elles sont fines et plus elles vont rentrer dans les alvéoles pulmonaires.
Dans une lettre, Greenpeace appelle les élus de la mairie et de la métropole à prendre des mesures. Sarah Fayol, porte-parole de Greenpeace France.
Marseille est en retard en termes d'offres d'alternatives à la voiture individuelle. Ce qu'on demande aux élus, c'est d'apporter des solutions pour réduire le trafic routier. Ça veut dire réduire la place de la voiture en ville, sortir progressivement des véhicules polluants et en même temps donner la possibilité aux gens de se déplacer autrement avec un réseau de transport en commun efficace, avec des pistes cyclables de qualité, etc.
Interrogée, la mairie se défausse sur la métropole. La métropole qui a publié il y a 4 mois un agenda pour annoncer des mesures. Mais les Marseillais voudraient bien savoir lesquelles. Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
En Corse aussi, l'atmosphère est à l'inquiétude. Entre 1500 et 2000 hectares ravagés par le feu depuis ce week-end, près de 50 départs de feu. Y a-t-il eu des gestes criminels? En tout cas criminels ou inconscientes. Ces personnes qui pratiquent l'éco-buage, brûler des feuilles ou des herbes pour s'en débarrasser. Rien de tel pour provoquer un incendie quand le temps est venteux, comme ce sera le cas aujourd'hui encore. Depuis hier soir et cette nuit, la plupart des feux sont fixés mais pas éteints. Les pompiers ont repris les rotations. L'incendie le plus important, c'est en Haute-Corse, à Calenzana, près de Calvi, dans le nord-ouest. Le maire de Calenzana va porter plainte contre ceux qui auraient provoqué des incendies en pratiquant l'éco-buage. Et les conditions météo et hydrologiques de ce curieux mois de février n'aident pas les pompiers. Écoutez le capitaine Simon-Pierre Riolacci avec Christophe Giudicelli.
On a eu des feux comme ça en hiver. La végétation était sèche, mais c'était dû au froid, au gel, et c'était la fougère. Sur des régions, on a beaucoup de fougères, de maquis, qui sèchent bien l'hiver. Mais là, le phénomène quand même qui est marquant, je veux dire, il y a de la neige, le feu s'arrête où il y a de la neige. On est au mois de février. Mais c'est vrai que quand on se pose la question, eh bien on a la réponse. Malheureusement, c'est le changement climatique. Et il faut que toutes et tous nous y mettions pour remédier à ça. Puis c'est tout. L'éco-buage, avec un vent violent, puis même quand il y a un peu de brise, il faut que les gens l'entendent et le comprennent. C'est interdit. C'est criminel de faire ça. Il y a du compostage à faire, il y a des déchetteries, on peut déposer ses déchets verts, il y a un tas de solutions.
Et à propos de la sécheresse dès ce mois de février, la préfète de Corse donnait ce matin ses chiffres éloquents. Le taux d'humidité est de 8%, il est inférieur à ce qu'il est en été habituellement en Corse, de l'ordre de 15%. À propos de la Corse, si vous devez voyager en bateau sur la compagnie La Méridionale, renseignez-vous, il y a un mouvement de grève aujourd'hui et demain. Changement climatique, suite et provisoirement fin, en tout cas pour ce journal, le constat du botaniste du parc de la Vanoise en Savoie. 10 à 16 degrés en plaine en pays de Savoie ces derniers jours, là aussi la douceur. Et depuis plusieurs années, le paysage floral du parc change. Monsieur le botaniste s'appelle Thierry Delahaye.
On va observer une remontée de certaines espèces en altitude. On a vu apparaître en Vanoise des orchidées méditerranéennes. Une des particularités de la Vanoise, c'est d'être un massif qui est très riche en espèces qui sont des reliques de glaciaires. On a tout un cortège de plantes qui vivent dans ce qu'on appelle les combaneiges. C'est une dépression topographique où la neige va s'accumuler 8, 9, 10 mois par an. Si la durée d'enneigement diminue, on a des espèces plus banales qui viennent coloniser parce qu'elles sont moins exigeantes et on assiste à la raréfaction et peut-être demain la disparition de toutes ces espèces spécifiques liées à des périodes d'enneigement prolongées.
Et un nouveau point météo avec Sébastien Léas à la fin de ce journal.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Avant d'aller en Allemagne, en reportage à Cuba et au Venezuela, nous accueillons l'invité de ce journal de 13h. Bonjour Jérôme Billois.
Bonjour.
Expert en cybersécurité chez Wavestone, qui est une entreprise spécialisée dans ce domaine en Europe. Nous vous avons proposé de venir dans ce journal parce que il y a eu une attaque majeure sur Internet ce week-end. Attaque particulière parce qu'au fond, elle s'attaquait à la structure même d'Internet. Expliquez-nous.
Alors cette attaque, elle a même commencé depuis novembre de l'année dernière. Et en fait, elle vise, si vous voulez, à modifier l'annuaire d'Internet. Internet, comment ça marche? Quand on tape un site, par exemple franceinter.fr, eh bien derrière, il y a un annuaire qui dit franceinter.fr, c'est là. Et ça donne une suite de chiffres qui donne la coordonnée, les coordonnées, si vous voulez, du site web. Et en fait, cette attaque, eh bien, elle consiste à modifier cet annuaire et à dire, France Inter, c'est pas là, mais c'est là-bas.
Oui.
Et donc, de pouvoir intercepter, finalement, eh bien, ce que les gens vont échanger avec le site web qui a été piégé.
Quelles conséquences? Ça veut dire qu'au fond, il y a des pirates qui, en quelque sorte, prennent le contrôle des sites?
Alors, si vous voulez, ils interceptent ce qui se passe entre vous, internaute, et le site sur lequel vous allez. Par exemple, avec votre banque, d'habitude, vous tapez votre login, votre mot de passe, et puis vous allez ensuite faire un virement à un ami. Mais là, ils se mettent au milieu. Ils écoutent ce qui se passe, ils sont capables d'écouter votre mot de passe, ils sont capables aussi des fois d'agir à votre place et donc potentiellement sur un site bancaire de pouvoir faire des virements, ce genre de choses.
Depuis novembre, vous le disiez, avec un épisode particulièrement fort ce week-end, est-ce qu'on sait quels sites ont été touchés?
Alors cette attaque-là, alors ce mécanisme d'attaque, il existe depuis longtemps, mais cette attaque-là a plus particulièrement visé des sites gouvernementaux et au Moyen-Orient et des prestataires techniques en Europe, en Suède en particulier et aux États-Unis.
Iran derrière, c'est en tout cas, ça fait partie des suspects, mais c'est difficile de l'affirmer.
Alors dans le cyberespace, c'est extrêmement facile de masquer ses traces, de rebondir de site en site, comme on le voit des fois dans les films d'action, avec on voit qu'on change de pays en temps réel, ça existe vraiment sur Internet. Donc si on regarde les différents indices qui ont été remontés aujourd'hui, les analyses pointent vers l'Iran, mais on n'a pas de preuves fermes que ce soit eux qui soient derrière.
Est-ce qu'on sait se défendre de ces attaques?
Alors on peut se défendre, c'est surtout une défense, je vais dire, auprès des fournisseurs de services sur Internet, en particulier des fameux fournisseurs de ce service d'annuaire, et des entreprises qui gèrent les sites Internet. Donc c'est moins une défense côté de l'internaute du quotidien.
D'accord, c'est pas monsieur et madame tout le monde.
En tant qu'auditeur, aujourd'hui, il n'y a pas forcément grand-chose à faire immédiatement, mais c'est plutôt les propriétaires de sites et les propriétaires de ces fameux annuaires.
Plus largement, Jérôme Billois, on a tendance à parler des cyberattaques comme quelque chose de pour dans quelques années ou comme une guerre froide, mais en fait c'est déjà le cas et c'est déjà une guerre chaude.
Oui, on peut tout à fait repenser à ce qu'a dit Florence Parly au début du mois de janvier de cette année, qui est la cyberguerre est déclarée. Donc voilà, quelque chose qu'on a imaginé pendant des années, aujourd'hui est bien là. Aujourd'hui, c'est des attaques qui ont lieu à tous les niveaux. Là, on parle plutôt d'attaques entre États, et ça a clairement lieu déjà depuis plusieurs années, pour déstabiliser, pour voler des secrets stratégiques. Puis après, on a des attaques, je dirais peut-être de plus faible intensité, plutôt criminelles, qui visent là cette fois-ci à voler de l'argent, par exemple. Et c'est ça qui touche le plus grand nombre d'internautes aujourd'hui.
La France est bien protégée?
La France, en tout cas, depuis des années, a mis des moyens très importants sur ce sujet-là et n'a absolument pas à rougir de sa posture par rapport aux autres pays, ni de son niveau d'expertise. Après, la difficulté d'être protégé face à Internet, c'est qu'il y a une protection au niveau du gouvernement, mais finalement, Internet, c'est beaucoup d'acteurs privés. Et donc en fait, ces différents acteurs privés, il faut qu'ils investissent en cybersécurité.
Chacun de son côté,
parce qu'Internet, on le sait, c'est pas juste une chose, c'est l'assemblage finalement des services fournis par des dizaines d'entreprises, et ces entreprises doivent elles-mêmes investir.
Mais là, au fond, ce qui surgit avec cette attaque depuis novembre, c'est le spectre d'une attaque structurelle qui jouerait en réseau beaucoup plus largement.
Voilà, et là, on est sur une attaque qui touche les fondations d'Internet. Ouais. C'est-à-dire, c'est un peu l'intraglerie, si vous voulez, c'est la robinetterie au fond d'Internet, là où passent les informations, chose qui est peu visible des internautes, mais qui est cruciale. Il y a plusieurs composants, l'annuaire dont on parlait, il y en a aussi un autre qui s'appelle le routage, qui est ce qui fait que, comme sur la route, on a des échangeurs, on sait quelle sortie prendre sur l'autoroute. C'est un peu la même chose sur Internet. Et ces deux composants, ils ont été créés à l'époque où Internet a été inventé. On parle des années 80, 90, 2000. Et finalement, ils n'ont pas été conçus pour résister aux menaces d'aujourd'hui. Et donc, il y a des investissements à faire sur cette partie-là, qui sont des investissements souvent malheureusement invisibles, mais qui sont nécessaires pour qu'on garde la confiance dans la durée.
Merci Jérôme Billois d'être venu dans les studios de France Inter pour répondre à nos questions. Et on continuera de suivre évidemment cette actualité. Nous parlions la semaine dernière de cette petite vingtaine de Belges qui touchent aujourd'hui encore une pension allemande qui récompense entre guillemets d'anciens collabos de l'Allemagne nazie. Et bien au fil des jours, on découvre que le phénomène est beaucoup plus large que cela. Des bénéficiaires bien ailleurs, en Europe et même dans le monde, dont 54 en France. Et les sommes versées à d'anciens collabos ou à des malgré nous peuvent aller jusqu'à 1300 euros par mois. En Belgique, le Parlement s'est emparé de l'affaire. En France, Jean-Luc Mélenchon alerte ses collègues députés. Il demande la fin de ses pensions et même le remboursement. Les sommes perçues pourraient être versées à la Fondation Charles de Gaulle. David Philippot, vous êtes à Berlin. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Allemagne rechigne à communiquer sur cette histoire.
Dans le monde, il y a 2033 personnes qui continuent de toucher cette retraite complémentaire. Elles vivent dans une cinquantaine de pays. Le mois dernier, la somme des versements a dépassé les 780 000 euros. Les tabloïds ici ont rebaptisé cette retraite la pension d'Hitler. En allemand administratif, elle s'appuie sur une loi de 1950, baptisée « loi d'assistance fédérale ». Elle trouve son origine dans un décret signé de la main d'Hitler. Il s'agissait à l'époque de l'offensive contre l'URSS, d'appâter les combattants étrangers et de récompenser leur engagement. En 1950, la République allemande en a raboté les contours, plus de versements pour les personnes condamnées pour crimes de guerre, et c'est aussi au nom de la loi que l'Allemagne d'aujourd'hui refuse de communiquer la liste des bénéficiaires. Certains vivent donc en Argentine ou au Chili, pays refuge pour anciens nazis. D'autres ont été enrôlés de force dans la Wehrmacht. Parmi les 66 000 personnes qui continuent de toucher en Allemagne cette pension d'invalidité, il y a aussi des anciens de la guerre d'Espagne qui avaient combattu contre Franco. Berlin, David Philippot pour France Inter.
Le timing du Brexit est de plus en plus serré. Le vote à la Chambre des communes à Londres devait avoir lieu mercredi. Ce sera finalement le 12 mars au plus tard. La date théorique du Brexit, c'est le 29. Cuba aura certainement ce soir une nouvelle constitution. C'est le « en même temps » à la sauce cubaine, cette constitution. D'un côté, le nouveau texte acte que l'ouverture économique, le marché, la propriété privée, les investissements étrangers sont nécessaires. De l'autre, il réaffirme le rôle unique du Parti communiste et le caractère irrévocable du socialisme à Cuba. Texte soumis hier à référendum, participation plus de 80%. Résultat ce soir, je vous le disais, sur le vote. Reportage pour France Inter à La Havane, Romane Frachon.
Deux enfants, soi-disant volontaires, veillent au grain. Debout de chaque côté de l'urne, en uniforme, les yeux fatigués. D'autres distribuent les bulletins de vote. Une question, ratifiez-vous la nouvelle constitution de la République ? Deux réponses possibles, oui ou non. À en croire les citoyens, ils ont tous coché la première case. Vilma González est vétérinaire, elle ne conçoit même pas que l'on puisse faire campagne pour le non.
Ici, nous ne pouvons pas faire la propagande du non, on fait la propagande du oui, il le faut, point. Si vous vendez une boisson, pour la commercialiser, vous allez faire une propagande pour le vendre, non ? D'autant que le oui nous représente tous, c'est la continuité de la révolution, de tout ce que nous a légué fidèle. Celui qui vote non, bah c'est son problème.
Certains ne prennent même pas la peine de se cacher derrière le rideau, ils cochent directement oui et s'assurent que quelqu'un les a vus. Selon plusieurs experts, pourtant, au moins 30% ont voté non. Mercedes Albuquerque semble être la seule à reconnaître leur voix.
Si un article ne leur plaît pas, ils peuvent dire non. Par exemple, le droit au mariage entre deux personnes, ça a été retiré. Le machisme est encore très ancré. On ne peut pas changer les conceptions du jour au lendemain.
Mais à moins d'une grande surprise, le oui a déjà gagné.
Voilà pour ce reportage à Cuba. Cuba qui se dote donc d'une constitution et son allié, le Venezuela, traverse une période plus que tendue. La bataille de légitimité continue entre les partisans du président en poste, Nicolas Maduro, ceux du président autoproclamé, Juan Guaido. Aujourd'hui, les pays du groupe de Lima, la plupart proches des États-Unis, se retrouvent en Colombie pour accentuer la pression en faveur de Guaido. Valérie Crova.
Juan Guaido est plus que jamais en position de force après les déclarations hier de Mike Pompeo via Twitter. Le secrétaire d'État américain a clairement fait comprendre qu'il fallait le soutenir, quitte à passer à l'acte pour permettre un retour à la démocratie au Venezuela. Comment les pays du groupe de Lima vont-ils réagir face à la pression exercée par les États-Unis ? Paula Vasquez, spécialiste du Venezuela.
Ce qu'il faut voir, si les pays du groupe de Lima seraient pour un positionnement plus musclé de la part des États-Unis. L'Amérique du Sud, qui n'a jamais subi une intervention militaire nord-américaine, c'était au Panama ou à Grenade, les interventions précédentes. Le Venezuela, ce n'est pas une petite île de la Caraïbe.
12 pays d'Amérique latine ont déjà appelé Nicolas Maduro à renoncer à son mandat. Le président vénézuélien ne peut compter aujourd'hui que sur une poignée de soutien.
Qui reste avec lui ? Il reste la Bolivie, le Nicaragua et Cuba. Il est dans une position de faiblesse, Maduro, mais il est là sans céder du tout.
L'administration américaine dispose d'autres armes après avoir imposé de lourdes sanctions fin janvier à la principale compagnie pétrolière vénézuélienne. Elle pourrait annoncer de nouvelles mesures de rétorsion pour faire plier Nicolas Maduro.
Et l'Union européenne demande d'éviter une intervention militaire au Venezuela. En Algérie, malgré les manifestations, pas question de renoncer à la candidature d'Abdelaziz Bouteflika du côté du pouvoir. Ce sont les urnes qui trancheront, dit le Premier ministre. Comment soigner les derniers spasmes de la désindustrialisation en France? Le gouvernement multiplie les échecs sur ce terrain en ce moment. Pas de repreneur fiable pour Ascoval dans le Nord. En Gironde, Ford confirme qu'il ne veut pas du repreneur pressenti pour l'usine de Blanquefort. Dans la Vienne, une semaine capitale commence pour les fonderies du Poitou en redressement judiciaire. Date limite pour trouver un repreneur jeudi. Un seul candidat pour l'instant. Et l'inquiétude dans la commune d'Ingrandes-sur-Vienne. Jules Brelaz.
Le bar tabac d'Ingrandes est un café qui propose des baguettes de pain, un relais de poste, mais en ce moment, puisque les fonderies du Poitou vont mal, c'est surtout pour un petit remontant que l'on s'y presse.
C'est triste, malheureux.
J'ai des enfants qui ont travaillé, ça me fait de la peine pour tous ces ouvriers.
La commune est partagée entre ceux qui espèrent un repreneur.
Il y a des gens qui sont confiants pour la reprise.
D'abord, veuillez arrêter vos conneries, c'est fait d'avance.
Et puis les autres, comme Eric, qui n'attendent pas de miracle.
Nous, on n'a pas le pognon, c'est le capital qui nous gouverne. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ces cons, là ?
700 ouvriers font vivre la commune et ses alentours, rappelle Philippe.
Forcément, ces gens-là, ils vont dans les commerces locaux, forcément, ils payent leurs impôts. Ça a forcément un impact énorme.
Exemple, Laurent, qui est poissonnier à Entrant.
Tout le monde va être impacté, de façon directement ou indirectement. Ça va être terrible pour l'économie.
Brigitte et Florence, qui tiennent le bar tabac, sont solidaires des fondeurs.
Bah, bien sûr, on les comprend. Les gens sont inquiets, c'est un peu normal.
Sur la table d'à côté, Bruno Laville, l'un des maires adjoints d'Ingrandes.
Les petites entreprises, les PME, vous avez beaucoup d'artisans, les fonderies Poitou, c'est à peu près 2000 emplois autour parce que ça fait vivre quand même Usseau, Entrant, Danger. Ça serait une grande catastrophe si les fonderies Poitou fermaient.
Quand les fonderies du Poitou sont en difficulté, c'est bel et bien tout le Châtel-Rodet qui tousse.
Et les syndicats étaient reçus ce matin à Bercy. Une assemblée générale a lieu ce soir. Cela fait 3 semaines maintenant que la loi alimentation est entrée en vigueur. Est-ce que les agriculteurs sont mieux payés? Élément de réponse au Salon de l'agriculture. Manuel Ruffez.
Il représente 3 agriculteurs sur 4, le président de COP de France, puisque 3 agriculteurs sur 4 sont dans une des 2400 coopératives de la structure. Il parle aussi au nom de ces TPE-PME qui, en ce moment, participent aux négociations commerciales. Selon Dominique Chargé, donc, s'il y a eu des avancées sur le lait, pour le reste, rien n'a changé.
Le fait que ça se passe mieux dans une filière, ça veut dire que c'est possible. Et aujourd'hui, on a quand même d'autres filières. Je pense notamment au secteur des viandes d'une manière générale, dans les céréales, où cette prise de conscience n'a pas encore été faite. On est encore sur des négociations commerciales qui privilégient les logiques de prix et de pression sur les fournisseurs.
Le but était pourtant bien de mieux répartir la valeur entre chaque maillon de la chaîne. Julia Bombardier est avocate au cabinet Janté, présent au Salon de l'agriculture. Spécialiste en consommation et distribution, elle compte surtout sur le consommateur.
Est-ce que moi, consommateur, j'accepte de payer un produit à son juste prix? Et c'est toute cette question de l'augmentation du seuil de revente à perte et de cet encadrement des promotions. S'il y a une augmentation du prix de certains biens par la distribution, d'une manière ou d'une autre, il devrait y avoir effectivement des répercussions, en tout cas je l'espère, positives sur le revenu des agriculteurs.
Elle dit surtout que pour mieux évaluer le résultat, il faut attendre un premier rapport qui fera le point en octobre prochain.
Et nous en venons au palmarès des Oscars à Hollywood avec Eva Bettan, meilleur acteur, Rami Malek alias Freddie Mercury dans Queen. Meilleure actrice Olivia Colman pour La Favorite, réalisateur Alfonso Cuarón pour le film Roma, le film Netflix. Et puis Eva, vous nous en parliez en titre, le cinéma noir américain primé. Meilleure adaptation pour Le Parrain, Spike Lee. Meilleur film et scénario Green Book, histoire d'un pianiste noir en tournée dans le sud américain ségrégationniste. Il y a le meilleur second rôle aussi masculin pour Mahershala Ali. Autre film primé, Si Beale Street pouvait parler, le cinéma noir dans toute sa diversité.
Oui, alors c'est vraiment intéressant parce que vous l'avez dit, le vétéran, donc Spike Lee, il n'avait jamais reçu d'Oscar, c'est la première fois qu'il en a. Spike Lee, il a 61 ans, à force d'un trublion, on a oublié qu'il pouvait vieillir. Il a été, lui, c'était le militantisme, le point levé, surtout dans les années 90, l'année où il fait Malcolm X, où il refuse même de parler à un journaliste blanc. Il a eu une traversée du désert, je raccourcis son portrait, Black Lanceman. c'est toujours la défense des Noirs, ouais. Mais il le fait d'une manière beaucoup plus soft, d'une manière beaucoup plus grand public, plus aimable. 90 millions de dollars de recettes brutes. Et qui lui apporte ce film? Qui est le producteur? C'est la jeune génération des artistes noirs. Jordan Peele, 40 ans. Il fait plein de choses, artiste multiple. Il a fait un petit film d'horreur en tant que cinéaste formidable, Get Out, qui a été un gros succès. Donc on voit le producteur de 40 ans qui vient chercher... Ouais. Spike Lee. On voit une autre génération, c'est ça qui est passionnant, qui fait carrière autrement et vite. L'Oscar du second rôle pour Regina King, Sybil Street de Barry Jenkins, 39 ans, déjà un Oscar pour Moonlight. Ce film-ci est inspiré d'un livre de James Baldwin. Il parle du racisme, mais lui, c'est pas le point levé. C'est plus subtil, c'est par la beauté, par la poésie, par la grandeur qu'il donne au personnage. Et puis, il y a une chose formidable, c'est le film Black Panther, le film de super-héros noir qui a 3 Oscars techniques. Qui est le metteur en scène? Ryan Coogler, 32 ans. Comment il est apparu dans le cinéma? Avec un petit film indépendant sur un crime raciste en 2013, Fruitvale Station, succès d'estime formidable. Du coup, qu'est-ce qu'il fait après? Vous pensez qu'il reste dans la même veine? Non. Il fait un énième avatar d'une saga, Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Ça marche et Marvel vient le chercher pour le confier un gros budget. Black Panther, film de super-héros noir, succès colossal. Écoutez le chiffre, 1,3 milliard de dollars de recettes brutes.
Le meilleur film, Green Book, tourné par un réalisateur blanc, celui-là.
Oui, mais ça c'est un classique, Peter Farrelly, que des blancs fassent aussi des films sur le racisme. Intéressons-nous à l'Oscar du meilleur second rôle à Mahershala Ali, 45 ans. Il fait une carrière classique. Il se fait repérer dans House of Cards, notamment, où il joue un rôle intéressant. Il a tourné dans des blockbusters comme Hunger Games. Et puis, il est ce dealer magnifique au grand cœur dans Moonlight. Oui. Et puis, premier Oscar du second rôle, deuxième Oscar du second rôle. Il joue le rôle le plus raffiné, le plus cultivé des deux. C'est le noir qui est éduqué dans ce film.
On a fait tout le palmarès, c'est bon?
On n'a pas tout fait, mais on a fait une partie.
Merci Eva Bétan. Et on se retrouve mercredi pour votre conseil cinéma, comme chaque semaine, dans le journal de 13h. Avant la météo, cette dernière minute qui concerne le club de football de Nantes, le président du FC Nantes visé par une enquête et la métropole qui se retire du projet du futur stade. Voilà cette dernière minute qui nous est donnée par l'agence France Presse.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Sébastien Léas.
Les conditions évoluent peu sur le pays et nous gardons un ciel dégagé et un temps ensoleillé sur l'ensemble de l'Hexagone. Les quelques fins nuages élevés qui se promènent dans le ciel entre le golfe du Lion et l'Auvergne et sur le Finistère ne changent rien à l'éclat du soleil. L'ambiance est tout de même ventilée en Corse et vers le midi toulousain. La douceur reste remarquable avec des températures presque printanières, dépassant de 8 à 11 degrés les normales de saison. Le long des Pyrénées, le seuil de chaleur de 25 degrés peut localement être atteint. Cet après-midi, il fait 15 degrés à Mulhouse et Cherbourg, 16 degrés à Ajaccio, Nice, Lyon et Metz, 17 degrés pour Nantes et pour Paris, 18 degrés à Lille et à Rennes et 20 degrés à Bordeaux et à Aix. À Bagnères-de-Bigorre, le mercure atteint même jusqu'à 24 degrés. En revanche, la nuit prochaine peut être localement froide avec de faibles gelées comme à Auch, Grenoble ou Nevers.
Émile, pardon, nous n'avons pas le temps de diffuser ce sujet sur les chasseurs, le chasseur de météorites, mais c'est promis, si ce n'est pas demain, on le diffusera en tout cas cette semaine, le chasseur de météorites au micro de Sandrine Houdin et qui raconte des choses formidables. 13h28.